France Inter et France 4 présentent Féloche, la vie cajun.
Darwin avait raison, je ne suis plus un loup, je ne suis plus qu'un chien.
Féloche est actuellement en tournée dans toute la France et sera le 24 mars à la Maroquinerie à Paris. Retrouvez Féloche et ses premières chansons dans le programme musical de France Inter. France Inter,
la différence.
15h04, c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour. Moi, il y a un mot qui passe pas, c'est le mot moderne. Moderniser le code du travail, moderniser l'hôpital, moderniser la poste. À l'UMP, ils ont même la gauche moderne. Je le rappellerai que le mot moderne veut dire nouveau. Et vouloir nous ramener avant les décrets du CNR, j'appelle ça rétro. Faut être moderne, faut vivre avec son temps. Oui, je vis avec notre temps. Quand il pleut, je relève mon capuchon. Bonne fin de semaine à tous. Marie-Paul, le vif-vif. Au revoir.
Je voudrais savoir s'il est exact que des rumeurs qui courent, selon lesquelles on aurait suspendu les expulsions pendant les deux tours des régionales. Donc c'était quelque chose qui me paraît être une rumeur. Est-ce une réalité? Est-ce que tu peux nous donner des renseignements, s'il te plaît? Merci, c'était Georges, donc de la Fondation Abbé Pierre, adhérent seulement. Hein. Voilà, au revoir.
D'après un sondage dont il vient d'être question aux 13h de France Inter ce vendredi, 57% des Français, je crois, donnent aux élections régionales un retentissement national, contrairement à ce qu'affirme maintenant le président de la République, et donc souhaitent, à la suite des élections, à la fois un changement de Premier ministre, je le croyais très populaire, c'est marrant, et un changement de gouvernement. Mais est-ce que dans le sondage, on leur a posé la question, et souhaitez-vous aussi un changement de président de la République ? Alors, c'est ça la limite, évidemment, de ces élections. Ces élections, elles ne remettent pas en cause le pouvoir actuel. Elles l'invitent seulement à changer ceux qui sont sous sa responsabilité. Mais à partir du moment où c'est toujours lui qui est là, eh bien, quelle que soit la personne qu'ils mettent à la place, ou les personnes qu'ils mettent à la place du Premier ministre et des ministres, ça sera la même politique. Donc le sondage, il aurait fallu évidemment, pour qu'il fût valable, poser la question, souhaitez-vous aussi un changement de président de la République? Et que faire dans ce cas-là? Ben, il faut qu'il s'en aille. Il y a longtemps, il n'aurait même pas dû arriver, mais bon. Maintenant qu'il est là, il faut qu'il se barre, quoi.
Bonjour Daniel, je viens d'entendre l'émission. Il se trouve que j'ai entendu aussi hier soir Mme Simone Veil parler de façon très émouvante de la situation des prisonniers, des prisonniers de droit commun, s'entend bien sûr, dans les prisons de l'après-guerre et de la façon dont elle essayait de s'occuper d'eux. Il se trouve aussi, j'ai entendu dire ça hier soir avec Laura Adler, il se trouve aussi que j'ai entendu une auditrice parler du futur centre de rétention qui est terminé pratiquement près de Roissy pour abriter les gens renvoyés chez eux, entre guillemets. Et j'ai été scandalisée, évidemment. Et il se trouve aussi que ce matin, j'ai reçu les déclarations de foi des candidats pour le second tour des élections régionales et que Mme Simone Veil était en photographie souriante auprès de Mme Valérie Pécresse. Je suis navrée car j'aime beaucoup Mme Simone Veil, pour bien des raisons en tant que femme, et à mon âge, 78 ans, je sais ce que je dis, et que ça m'a fait beaucoup de peine de la voir sur cette photographie. Au revoir.
Bonjour Daniel. Hier, au moment où Simone Veil entrait sous la coupole et prononçait son discours, une auditrice de là-bas, si j'y suis, évoquait la honte qu'elle ressentait devant le beau camp de rétention tout neuf du Mini Lamelot. Alors je me suis prise à rêver que dans 30 ou 40 ans, alors que le président de l'époque aura fait repentance, et où Sarkozy ne sera plus qu'un vague mauvais souvenir, entrera à l'Académie française, si elle existe encore, un ancien sans-papiers qui aura connu la rétention dans ce centre. Ça serait une belle revanche envers cette période honteuse que nous traversons. C'était Jean-Claude de Seine-et-Marne.
Oui, vous êtes censé, les journalistes, donner de l'information, mais je crois que votre émission, M. Mermet, est très, très orientée. Et par conséquent, j'incitais certaines personnes à penser comme vous. Et ça, c'est très regrettable sur un service public.
Bon, je viens juste vous dire que je me suis régalée en écoutant Normand Baillargeon cet après-midi. J'ai beaucoup aimé Adolfo Kaminski hier et avant-hier, et j'ai été très émue en écoutant Jean Ferrat lundi. c'est réconfortant, ça redonne de la force et du courage. Continuez, merci beaucoup.
Bonjour, alors c'est très facile d'influencer les gamins. Je vais vous donner le texte de devoir donné aux petits-enfants en Allemagne dans les années 36-37. Alors le coût pour l'État d'un malade mental, 766 marques. Un sourd ou un aveugle coûte 615 marques. Un handicapé, 600 marques. Dans les institutions où ils sont soignés aux frais de l'État, il y a 167 000 malades mentaux, 8 300 sourds et aveugles, 20 600, etc. Combien coûtent ces handicapés chaque année? Combien de familles héréditairement saines pourraient être logées avec ces sommes, sachant qu'un appartement coûte 7 000 euros? Voilà comment on peut influencer des tout petits enfants. Allez, au revoir.
Oui, influencer de tout petits enfants, mais aussi des grands. Et merci de citer cet exemple de manipulation qui s'est généralisé aujourd'hui, au moins sur deux points. Un, l'usage de chiffres, on donne des chiffres, c'est ce qui frappe le plus fort et le plus vite. On ne dit pas d'où viennent les chiffres, ni comment ils ont été obtenus, mais on balance des chiffres. Et deuxième point, on est objectif. On donne une information, on a l'air impassible, on a l'air neutre, et on vous laisse conclure, vous êtes libre de conclure, ben vous concluez qu'il faut détruire les handicapés, par exemple. Et ça, c'est une pratique générale aujourd'hui, surtout chez ceux qui se drapent dans la déontologie et l'impartialité. Ce que cite notre auditrice, notre AMG, c'est la propagande nazie pour la destruction des handicapés. C'est le programme Action T4 qui a été mis en œuvre dès 1939. On estime à 100 000 le nombre d'aliénés qui ont été assassinés par les nazis, en application des théories sur l'hygiène raciale, fut mise ainsi en place l'exécution planifiée de, je cite, « des malades héréditaires, des fous, des personnes handicapées et des personnes socialement ou racialement non souhaitées ». Fin de citation. Voilà, il faut rappeler qu'en France, les handicapés, aliénés, ont, durant la période de Vichy, eu un sort très calamiteux. Ils ont été abandonnés, beaucoup sont morts de faim, et on estime leur nombre entre 40 000 et 50 000. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit cette auditrice, ce n'est pas notre sujet du jour, il faudrait qu'on revienne sur tous ces thèmes-là, mais je trouve judicieux de souligner ces façons, ces procédés de désinformation et de manipulation. C'est évidemment la suite de l'émission d'hier sur l'autodéfense, le petit cours d'autodéfense intellectuelle de notre ami Normand Baillargeon. Merci aussi pour cette auditrice qui est contente de des émissions de la semaine. Ben voilà, ça vous fait des choses à réécouter au cours de ce week-end sur là-bas.org, là-bas.org. Vous pouvez réécouter les émissions de la semaine. Aujourd'hui, tout à fait différent, Cassandra. Cassandra, l'histoire de Cassandra qui date de 1993. Là, on a à nouveau fait un tour dans le grenier de la base, j'y suis, pour retrouver ce reportage de 1993. C'était de Christophe Gallo, et ça partait d'une seule phrase: un travesti en mal d'enfant kidnappe un nouveau-né à la maternité. Voilà, c'est l'histoire de Cassandra. Auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs, à tous les AMG. Ici le repère de la bassie J'y suis de Tonquédec, dans le Trégor, dans les Côtes d'Armor. L'annonce que je vais faire peut intéresser pas mal de monde sur une bonne partie au moins du nord de la Bretagne. Le 26 mars, donc c'est dans une semaine précisément, le repère de la bassie J'y suis, qui en principe se tient ce jeudi, se tiendra là le vendredi soir, parce que nous recevrons l'historienne Annie Lacroix-Ris, qui va venir faire une conférence sur le thème « Le choix de la défaite », qui est le thème de son dernier livre, qui traite des élites françaises, financières, économiques et politiques, qui ont, au cours des années 1920-1930, consciemment souhaité favoriser la domination sur l'Europe de l'Allemagne de Hitler. C'est autant des cerises à partir de 21h, à Tonquédec. Voilà, je vous remercie de passer le message. Voilà, c'était le repère de Tonquédec dans les Côtes d'Armor, dans le Trégor. Salut et continuez, bravo pour votre travail.
Salut tout le monde, je vous appelle aujourd'hui car je représente les parents d'élèves de l'école de Husson-en-Forez. Husson-en-Forez, c'est un village de 1400 habitants dans la Loire. Et dans notre école primaire, où sont scolarisés 130 enfants, l'académie a décidé de fermer une classe. Une sur les 6 qui existent actuellement. Nous, on n'est pas d'accord. Alors dimanche, on organise une manifestation pour dire non donc à la fermeture de cette classe, pour dire non à ces classes surchargées, pour exiger une éducation de qualité pour tous nos enfants, bref, pour sauver l'école publique. Donc, on vous donne rendez-vous à Husson, au carrefour de la route de Vivrolles à 10h dimanche matin. On veut se faire entendre, alors amenez de quoi faire du bruit. Merci.
Bonjour à tous. Je suis bien d'accord avec le monsieur qui vient de fustiger la publicité sur France Inter. Ça devient insupportable. Surtout les deux connards de la Matmut que je ne peux plus entendre. Donc je coupe la radio aussitôt et puis souvent j'oublie la rallumer. Voilà. Voilà à quoi ça sert de nous bassiner avec des imbécilités comme ça toute la journée. Merci. Ici c'est Julie de Basse-Normandie.
Je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je te connais. Je n'aurais jamais imaginé que je rencontrerais un homme comme toi un jour.
Je ne veux pas m'en remettre que c'est un homme, hein.
Quand on se déguise, finalement, à quoi ça sert?
Ben, je me le demande.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Christophe Gallo. Là-bas, si j'y suis.
Flight number 2, arriving from New York.
Et moi, ce qui m'a choqué un jour, en bas au facteur, c'est qu'elle avait la barbe. Bon, ben, moi j'en ai bien.
Cassandra désire avoir un enfant, mais son mari est impuissant et son amant ne veut pas. Pauvre Cassandra. Cassandra sera-t-elle enfin heureuse un jour? Qu'en pensez-vous? Ne me laissez pas seul à me demander avec Cassandra. Cassandra, eh oui, c'est les feux de l'amour. Les feux de l'amour, c'est un feuilleton. C'est pas en vrai. En vrai, on n'est pas si bien peigné. En vrai, il n'y a pas autant d'aventures, ni de passions, ni de belles voitures. En vrai, c'est plus fade, plus gris. En vrai, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de piano. Quand Gérard sort le gigot, en vrai, c'est pas aussi vrai. En vrai, ça arrive pas ici-bas. Eh ben, si, ça arrive, c'est arrivé. Non, pas à Monaco, pas à Dallas, même pas à Dynasty. Ici, chez nous. En France, à Luxeuil-les-Bains, sur Terre. Ici, pendant des mois, Cassandra, la belle Cassandra était là. Passion, tendresse, un feuilleton en frais. Avec la grosse surprise à la fin, le gros titre dans le journal. Un travesti en mal d'enfant kidnappe un nouveau-né à la maternité. À tout son immeuble, il, elle, avait fait croire qu'il, elle, était enceinte. Il, elle, a été arrêté. Il, elle, s'appelle Cassandra. Tout ça à Luxeuil-les-Bains. Même à Belfort, ils n'ont pas d'histoire comme ça. Alors, avec Christophe Gallo, on a voulu aller voir, quelques mois plus tard, après coup, après médias, peinards, que reste-t-il de ces amours? Quelles traces, quel sillage à Luxeuil, déjà rendormi? Le ravisseur, la ravisseuse, la ravissante, un peu barbu, Cassandra, les gens, les rumeurs autour, choqué, indifférent, péremptoire, surpris, méchant, ravi, compatissant, perplexe. Les aventures de Cassandra au pays des Français profonds.
Et un copain, il faisait la bise. Puis l'homme, il a lu les journaux, il a vu ça et était dégoûté, quoi. Même il y en a une qui dit que c'est pas vrai ce qu'ils disent dans les journaux.
C'est vrai. C'est vrai que c'est peut-être pas vrai. Ça fait un drôle d'effet. Vous embrassez une femme et vous découvrez que c'est un homme. Mais ça, c'est les journaux qui l'ont dit. Mais qui c'est qui est allé voir? Qui c'est qui a la preuve? Un homme? Une femme?
même pas son mari. Son mari, il a dit qu'il s'était pas aperçu que sa femme n'était pas une femme. Ah, un mari qui n'a pas le sens de l'observation, ça arrive, c'est rare, mais c'est une histoire rare. C'est là que ça se passe, ici même, dans cet HLM à Luxeuil-les-Bains. C'est ici, dans cette tour, au 11e étage, qu'elle habitait. Et là, en bas, c'est le bistrot. Ricard, Pétanque, Blaireau, Travelot. On s'attend à la gaudriole. On s'attend à la bien bonne. On entre et, comme par hasard, Marco dégrafe son corsage. Les gars du village sont là pour donner la gougoute à son chat, comme en rêvait Cassandra.
Rue Babar 473, en peu de temps, pile 3 minutes pour Georges Brassens et Bram Marcon.
Oh, on la voyait tous les jours passer.
Oh oui, une belle bombe. On la sifflait de temps en temps. Elle s'est retournée. Hein. J'aurais pas fait qu'elle me le demande 5 000, moi j'aurais pas été bête.
Ah oui, une belle femme.
Donc, bien, bien foutu. Belle jambe, tout. Belle jambe, beau corps.
Elle faisait un peu envie à tout le monde. Vous la voyez, vous ?
Ah, moi, je connais pas, moi. Je dis rien.
Non, lui, ouais.
Aïe, aïe, moi. Tu veux rien entendre de moi, quand même.
Non, faut pas dire qu'elle a guichet, non, c'est pas vrai. C'était une belle femme.
Puis ce journal, ils n'ont rien expliqué non plus. Hein.
Ça a été étouffé, ça.
Les gendarmes sont venus, il était quelle heure, 11h le soir ou minuit, je sais pas, un truc comme ça. Ils sont venus les arrêter ou un truc comme ça dans la tour. Je savais même pas que ces gens habitaient là, moi, franchement, je ne connaissais même pas. Les gendarmes sont venus. J'ai un collègue de café qui sortait d'ici, un collègue, hein, à moi. Il voulait revenir pour me dire, tiens, il y a des gendarmes autour de la tour. On les a même pas vus, les gendarmes. Ben, ça s'est venu, ça s'est fait rapidement, je sais même pas, je la connaissais même pas, moi, alors, on peut pas dire.
C'était une femme sympa, gentille, elle rend service, c'était très très gentil.
Et alors vous, vous la connaissiez comment? Qu'est-ce qu'elles étaient vos relations?
Moi, je la connais dans le couloir, on va chercher les boîtes à lettres, et puis elle m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour. Elle m'a dit t'avais tout, je l'habitais au 5e, elle m'a dit ben, je vais venir chez toi, ben, je dis si vous voulez, oui, ben, je dis oui. Alors on monte chez elle, elle vient chez nous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dispute, rien du tout. Et c'était une femme qui est très 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 gentille, elle a le cœur sur la main, elle n'est pas violente, elle est correcte, mais elle n'est pas violente, hein. C'est une femme qui est très gentille.
Et de quoi vous discutiez alors?
Là, on discute de un petit peu de ménage, de la maison, de ma fille s'il a besoin de quelque chose elle prête, même il a même pas rien, une robe ou quelque chose pour sortir, pour aller aux boîtes, elle prête sa robe, elle est confiance. Oui, des trucs de femme, de ménage de femme, de des hommes. Oh, elle me dit, moi, je suis mariée, j'en ai assez, hein, j'en ai à la maison, elle m'énerve déjà. Moi, je dis, écoute, Sandrine, il faut tenir le coup, etc., acheter des meubles et tout. Et puis, c'est des jeunes, moi, je trouve. Lui, il est jeune plus qu'elle.
D'après cette voisine et amie, elle, c'est toujours elle et elle est toujours là. Lui, c'est le mari, c'est le mari de Cassandra. En principe, c'est lui l'homme. Cassandra, la femme, même si Cassandra est un homme aussi. Eh ben non, le mari, c'est la gringalette, et Cassandra, le travelot, c'est celui qui en a. Vous comprenez? Non, attendez, voilà le fils de la dame, témoignage.
Elle a réussi à faire croire à son entourage, qui était très minime, c'est-à-dire Yasmina, Pauline, les amis qui l'aimaient beaucoup, qu'elle était déjà enceinte, puis qu'elle attendait 2 jumeaux. Et durant un départ, précipité, puisqu'elle voulait faire croire aux autres qu'elle allait pas tarder à accoucher, Elle a téléphoné à son amie la plus proche, Pauline, en lui disant qu'elle avait accouché, mais qu'elle avait perdu un des 2 jumeaux. Elle est revenue 3 heures après son coup de fil, avec cet enfant qu'elle n'a pas voulu qu'on voie, quoi, parce qu'elle voulait pas du tout qu'on le voie. Et durant sa grossesse, elle ne supportait pas qu'on lui touche au ventre. Elle disait que c'était un outrage à sa grossesse. Il fallait pas du tout toucher son ventre, voir si vraiment elle avait un bébé. Elle voulait pas du tout ce qu'on fait habituellement avec les femmes enceintes. Moi, personnellement, je veux dire, je l'ai vu trois fois de très près, elle était à 2 mètres de moi. On a beaucoup discuté, au moment. Et je vous assure que la transformation était parfaite, quoi. À 100%, j'ai vu que du feu, quoi. Et personne ici ne savait vraiment qu'elle était... mis à part qu'elle avait ce côté... une dame n'a pas le bouc, n'a pas tout ceci, et elle était assez, assez pollue, quoi.
Oui,
et elle disait que c'était parce que c'était... Elle disait que c'était dû à son origine. Elle disait qu'elle était... qu'elle avait des dérivées portugaises, et puis que c'était à cause de ça, si elle avait du duvet, si c'était... Mais en fait, eh ben, ouais, si on s'était vraiment posé la question, peut-être qu'on aurait douté sur sa vraie personnalité, quoi, en somme, déjà.
Elle a dit qu'elle a pris un médicament, et puis le médicament, elle a tourné, et c'est comme ça, c'est la barbe qu'elle a commencé à pousser.
Elle s'attachait beaucoup au passé, tout en disant que lorsqu'elle était jeune, avant qu'elle soit enceinte, c'était une fille assez séduisante. Et dû à cette grossesse, elle était assez complexée. Elle voulait pas trop qu'on la voyait. Moi, je sais que lorsqu'elle venait ici, elle restait pas longtemps, 10, 20 minutes, le temps de boire un café, elle remontait très vite chez elle. Et c'est vrai qu'elle avait, elle avait les qualités pour être une charmante jeune fille. Mais...
Elle vous a parlé de sa jeunesse, justement, de son passé?
Tout ce que je sais, moi, c'est qu'elle vivait à Toulouse. C'était la ville rose, la ville de la musique, et là, elle s'y sentait bien, quoi. Et c'est peut-être dû au tumulte des gens que quand on voit une fille un peu bizarre physiquement, on se pose pas tellement la question vu qu'on en voit pas mal. Mais là, je crois qu'elle était obligée de se faire une ou deux copines à qui elle a confié deux ou trois choses afin d'affirmer qu'elle était vraiment femme, quoi. Pour les empêcher d'essayer de découvrir s'il y avait pas... Mais elle y a réussi, quoi, vu que ses amis continuent à lui écrire n'importe comment. Elle continue à nous écrire. Son mari... Oh, c'est coincé. Je sais qu'il n'aimait pas du tout la vue des autres. Je sais que la plupart des fois où je suis monté chez eux, il n'était jamais là, de toute façon. Il était soit enfermé dans la salle de bain ou dans le balcon. Ou... Il était impossible de le voir, alors, c'est clair. Hein. Il ne voulait pas qu'on le voie, quoi. Ou la plupart du temps où il apparaissait, c'était pour se disputer avec Cassandra et après claquer la porte pour aller s'enfermer soit dans les toilettes, soit dans la salle de bain. Je sais qu'elle était un peu plus grande que mon père, c'est-à-dire un bon 1m80. Et puis, imposante, qu'elle était bien forte, quoi. Elle devait faire pas loin de... un quintal, pas loin de 100 kilos, quoi. Elle était là, quoi. Des bons jambons, quoi. Et je sais que son mari, son petit ami, avait très peur d'elle, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il s'enfermait, puisqu'il évitait... Il évitait de se battre avec elle, quoi. Puisqu'elle avait toujours le dernier coup, quoi, physique. Ma sœur, elle a pu assister à quelques scènes. Sa copine aussi, Pauline. C'était assez bruyant, quoi. Assez vivant.
Au fond, on est tous des travestis. Tous... On rêve d'être quelqu'un d'autre, des déguisés. On est tous, au fond, des déguisés contrariés. L'homme est le seul animal qui ne s'accepte pas tel qu'il est. Déguisé, panoplie, d'Artagnan, policier, Mickey, quelqu'un d'autre, une autre peau. Ma femme me dit parfois, mets-toi à ma place. Eh bien, un coup, je devrais bien essayer. Imaginez, si j'étais ma femme. Si j'étais à la fois... Une femme, ma femme et moi. Fini le manque, fini la quête. Comblé, pas double, mais entier. Complet, total, enfin seul. Avec les ailes d'un ange ou d'un aigle à deux sexes. En parlant comme ça, j'agite probablement de très anciennes histoires, des manques, des mythes qu'on a trouvés dans le berceau du monde, rose bonbon et bleu layette. Cassandra joue à la poupée. Et mieux, elle joue la poupée. Et mieux, elle est la poupée. Acteur, actrice, incarnation. Elle entre dans la peau du personnage. Une femme. La peau du personnage dont on est tous sortis. La mer, l'intérieur, l'avant, le paradis. Cassandra y retourne. Et puis, elle grandit. 1m80. Beau brin de femme. Dans la peau de ce personnage, dans la peau de cette femme, il faut de la chair, il faut de la vie, un bébé, un vrai à tout prix. On peut raconter l'histoire comme ça, mais aussi comme la raconte Madame Bergeret, une voisine de l'immeuble.
Alors, moi je connais Cassandra, de me trouver avec elle quand on va au facteur le matin. Voilà. Et il n'y a qu'une chose une fois qui m'a choquée. On a un boulanger qui passe là-devant. Elle était en robe légère. Elle avait aux pieds des spartiates d'hommes. Et comme moi, je suis un peu moqueuse de nature, j'ai dit à une dame qui se trouvait là, mais j'ai dit, Cassandra, elle doit pas tomber les jours de grand vent, parce qu'elle a des drôles de pieds. Parce qu'elle avait des pieds pour une femme, voilà. Mais autrement, elle habitait au... C'est l'onzième, je crois, hein. Onzième étage, elle n'embêtait personne. Ouais. Elle vivait avec un petit gras, ma foi. Ça, c'était leur affaire. Hein.
Oui.
Bon, disons que j'ai 73 ans, j'ai vécu, je suis sortie, j'ai été à Paris, j'ai vu des travestis, j'ai été à Besançon, j'ai vu ça ici, qu'ils ignorent ici, ils trouvent tout bien. Bon, voilà. Histoire de son ventre, moi, je trouvais qu'elle avait un... Parce qu'une femme enceinte, elle a un ventre quand même bien arrondi. Alors elle, moi, je trouvais qu'il était bien... Elle avait un ventre, mais bizarre sur les côtés, sa forme. Bon, vous voyez, j'ai pas été la palper pour voir si c'était des coussins. Hein.
Mais vous vous êtes fait avoir ou est-ce que vous aviez un doute mais sans penser que ça pouvait être ça ou est-ce que vous étiez sûr de vous et que vous gardiez ça pour vous?
C'est-à-dire que, on était plusieurs personnes du même âge. Quand on se rencontrait, on était, je sais pas, elle attirait le regard, il y avait quelque chose qui n'était pas net. Et moi, ce qui m'a choqué un jour, en bas au facteur, c'est qu'elle avait la barbe. Moi j'en ai bien. J'ai bien un petit peu de moustache. Alors, c'est des choses, hein.
Il n'y a pas vos escalopes qui brûlent, là?
Non, attendez, c'est le gaz, mais c'est pas les escalopes. Mais ça me trouve bien, quand même, ça sera plus bien. Voilà, c'est ça. Il s'est passé quand même quelque chose dans la tour, que c'est un gamin qui me l'a raconté. Moi, je n'étais pas là. Elle avait un chat. Et ce chat, il a tombé sur la terrasse. Et... Cassandra, avec son gros ventre, est descendue en bas aux poubelles. Elle a vidé une poubelle, elle l'a pris, elle l'a mis contre le mur, et elle est montée sur la terrasse. Et ce gamin, c'est un petit Algérien, je ne sais pas quel âge il a, peut-être 13 ans, il m'a dit, puis tu crois, madame, toi, que ma mère, quand elle nous fait des gosses, des petits frères, qu'elle montrait sur la terrasse? Mais moi, j'étais pas là, alors je ne l'ai pas vu, puisque... La terrasse, elle a mes fenêtres, alors je l'aurais vu, mais j'étais pas là.
Mon chéri, je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je te connais. Je n'aurais jamais imaginé que je rencontrerais un homme comme toi un jour. Tu n'as pas peur de partir au travail, dis-moi.
Oh, c'est un petit gringalet, moi j'en reviens. Ça faisait... disons que c'était double pâté patachon. C'était tout petit... Puis elle était grande, alors ça choque de les voir ensemble. Mais enfin, ce que je trouve qui n'est pas bien, ça ne me rate pas, mais c'est que, lui, c'est... Hein, il n'avait jamais vu que c'était un homme. Et il y avait 8 mois qui couchaient à côté. Ça, c'est gros à avaler, parce que ça, c'est... Bon. Non, mais elle marquait bien, hein, celui qui la voyait dans la rue. Je suis sûre qu'il y en a bien qui sont cessés. Prendre, qu'est-ce que vous voulez ? T'es bien coiffé, c'était ses cheveux, hein, c'était pas une perruque, hein. Elle était blonde, elle avait les cheveux jusque sur les épaules, elle se tenait bien, elle se maquillait légèrement, pas fardée comme il y en a qui font, vous savez, il y en a qui se mettent énormément de maquillage. Non, elle était bien. Moi, la chose qui m'avait choquée, c'était ses pieds.
C'est vrai quand même que le mari, l'amant, était un petit peu tête en l'air, hein, un petit peu pas tellement le sens de l'observation, mais on n'est pas là pour juger, on n'est pas des flics. Moi, je pense quand même, depuis Néandertal, c'est incroyable ce que l'homme a fait sur la planète. L'homme et la femme, c'est fou. Ces efforts inlassables, c'est touchant, c'est formidable. N'empêche, quand on a fait des inventions, il n'y a toujours que deux sexes. Deux malheureux sortent de sexe. Bien sûr, vous pouvez changer de sexe, mais c'est pas du gâteau. Non, on en était... Ah oui, Joël. Joël, c'est le vrai nom de Cassandra.
Mais ne sachant pas, faut savoir d'où elle sort, d'où il sort ce garçon qui s'appelle Joël, entre parenthèses. Faut savoir d'où il sort. Peut-être qu'il a manqué de quelque chose qu'on ne sait pas. Faut pas juger les gens, c'est ce que je vous dis. Faut pas juger un gars parce qu'il fera ci, parce qu'il fera ça. Reste à savoir dans le milieu familial où ils ont vécu.
Vous avez eu des enfants ?
Ah, moi j'ai des enfants, mais j'ai deux filles, moi.
Et la maternité, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente?
Ça représente la femme, disons que c'est le rôle de la femme, hein, d'être mère. Parce que la femme, elle est femme, elle est maîtresse, elle est mère. Hein, faut pas l'oublier, ça. Et s'il y avait des femmes dans bien des ménages qui veulent le comprendre, les ménages marcheraient mieux. Parce que d'être mère, c'est beau, vous portez cet enfant, vous le sentez, vous... C'est inimaginable, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, hein, d'être mère, de porter un enfant.
C'est pas un peu émouvant de savoir qu'un homme a eu cette envie-là
et ben si, c'est ça, c'est ce que je me demande. Moi, je le critique, c'est ce que j'ai dit, je le dis quand on en parle, parce qu'on en parle des fois quand même. Hein. Moi, je dis, c'est quand même à savoir comment ça se fait qu'il avait quelque chose pour avoir cette idée. Là, ça vient pas, ça, c'est pas un travesti, un gars qui s'habille en femme, et puis qui... Non, il y avait quelque chose qui part en dessous, qui est... C'est une chose qu'on ne peut pas comprendre.
Et pour vous, ça veut dire quoi, se travestir, se déguiser?
Ah ben, quand j'étais jeune, hein, maintenant, on n'en parle plus, parce que j'aurais plutôt l'air, je dirais, la vieille, elle a passé bien de l'autre côté. Et d'abord, moi, je suis souvent en pantalon, même à l'âge que j'ai.
Quand on se déguise, finalement, à quoi ça sert?
Ben, je me le demande. Parce que nous, dans notre temps, on n'avait pas les habits que les gens ont maintenant, parce que maintenant, il y a des maisons qui vous louent des vêtements, qui vous louent tout. Celui qui veut se déguiser à l'heure actuelle, il y a vraiment des beaux, hein, il y a des belles choses. Bon, ben, moi, je sais que je mettais les habits de mon père, ma sœur mettait les habits de maman, ma sœur se mettait de la farine, puis moi, je me mettais du noir du fourneau. Voilà.
Mais vous étiez travestie, alors?
Eh ben voilà, c'est ce que je vous dis. Elle allait à la maternité suivre les cours d'accouchement sans douleur. Alors, seulement la seule chose qu'ils avaient remarqué, c'est qu'elle montait vers les couveuses. Elle était toujours vers les couveuses. Donc, elle avait quand même une idée bien arrêtée de vouloir prendre un enfant. Hein.
Elle avait tout organisé, vraiment.
Ah, oui, tout était bien organisé. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Elle a quand même ramené le bébé. Dans son malheur, elle a eu de la chance. Elle a ramené le bébé qui avait 3 heures, hein, qu'il était au monde. Elle l'a mis dans un sac sport. Elle a de la chance que c'était un enfant qui était fort, qui avait les poumons solides. Hein. Alors, quand elle est arrivée ici à la tour, moi, je ne l'ai pas vue, mais il y en a qui l'ont vue. Elle est arrivée, elle avait le bébé sur les bras. Elle l'a sorti de la voiture, elle l'avait sur les bras.
C'est beau, hein? C'est beau. Quelle belle histoire. Si vous avez raté le début, c'est bien simple. Cassandra, un travesti, kidnappe un bébé. Elle avait fait croire à tout le monde qu'elle était enceinte. Est-ce que tout le monde l'a cru? En tout cas, son amant, Christian, lui, il a cru que c'était une femme. Cassandra n'a pas fait de difficulté pour rendre le bébé quand les gendarmes sont arrivés. Cassandra, ou Joël, a été écroué pour enlèvement d'enfants, même si les parents, les vrais parents du bébé, qui s'appelle Mario, ont enlevé leur plainte. Elle est inculpée pour faux en écriture publique parce qu'il y a eu du bricolage sur sa carte d'identité, ah oui. Voilà. On continue? Bon. Témoignage d'une voisine et copine.
J'en voyais tous les jours. Pour moi, c'était une amie. Pourquoi? Parce que, bon, ben, elle m'écoutait quand j'en avais besoin. Puis elle se confiait beaucoup à moi. Elle me rendait beaucoup de services. Et puis, bon, ben, enfin, il n'y avait pas qu'à moi, il y avait aussi à d'autres copines. Puis, bon, ben, ouais, elle nous aimait bien. C'était quelqu'un qui aimait bien. Qu'on s'occupe d'elle, qu'on la complimente et puis tout ça. Bon, bah, ils travaillaient pas tous les deux. Lui, il en avait marre. Et puis, il y avait aussi sur le plan affectif. Pourquoi? Parce que, bon, ben, lui, il lui montrait plus qu'il l'aimait, soi-disant. Enfin, c'est ce qu'elle nous disait. Qu'il la trouvait grosse, qu'il avait honte d'elle. Enfin, c'était plus pareil, que c'était plus les mêmes sentiments qu'il avait avant, enfin, les premiers jours. Et puis, lui, peut-être qu'il avait l'impression d'étouffer, je pense. Parce que c'est pas bien de toujours retenir quelqu'un, de tout le temps l'avoir pour soi-même. Faut laisser un peu de liberté, ça fait pas de mal. Et puis c'était, non, t'es à moi, t'es à moi, t'es à moi. Puis lui, il en avait marre. Hein.
Mais elle l'impressionnait un peu physiquement, ça devait être...
Oui, parce qu'on est un soir, on est arrivé, ils se disputaient, puis ça a fini en bagarre. Mais je vous assure que ça rigolait pas, parce qu'il y a quand même eu un trou dans un mur. Elle a donné un coup de pied dedans. Alors déjà nous, mais on tape dans un mur, on a déjà mal, juste si on n'est pas plâtré. Alors elle, enfin, il était pas trop sympa avec déjà. Hein. Elle se débrouillait pour lui, il était toujours pareil avec elle. Hein. C'est pour ça, moi, à la force, il me dégoûtait plutôt qu'autre chose.
C'était quoi une journée dans l'immeuble avec elle?
Oh, ben, le matin, de toute façon, quand c'était pas moi qui montais, c'était elle qui descendait. Elle buvait le café avec moi. On papotait. Bon, elle me disait, je vais monter faire à manger. La plupart du temps, elle nous invitait du moins à manger chez elle. Et puis, bon, ben, elle redescendait l'après-midi. Elle remontait, elle me disait, je vais faire mon ménage. Et puis, bon, ben, des fois, elle voulait que je la coiffe. Elle prenait sa douche. Puis, je montais, je faisais un brushing. Ou... Sa coiffée, elle adorait ça, de toute façon. Alors.
Se faire coiffer ?
Elle adorait se faire coiffer.
C'est-à-dire que pour vous, c'était vraiment une femme du début jusqu'à la fin.
Oui, c'était une femme. Hein. D'ailleurs, j'étais très surprise quand on m'a dit que c'était un travesti. Hein. Puisque même moi, je n'avais pas remarqué. Hein.
Et pourquoi elle vous a caché ça, d'après vous ?
Peut-être déjà de peur de ne plus nous avoir, nous. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais fait peut-être comme elle. J'aurais peut-être pas fait la même bêtise qu'elle. Mais je sais pas, j'aurais peut-être pas osé dire que j'étais un homme. Dans sa tête, c'était je suis une femme et puis c'est tout. Hein. Elle se prenait pour une femme, hein, une vraie. Hein. Même moi, ce que je fais, enfin, ce qu'elle faisait, moi, je le faisais pas. Hein.
C'est-à-dire ?
Sur moi-même, m'habiller comme elle s'habillait. Elle faisait des trucs, même à la maison, attention, elle cuisinait hyper bien d'ailleurs. Elle faisait de la couture, tout comme une femme. Hein. Tout. Hein. Même la chambre du bébé, moi, je l'ai vue. Hein. C'est magnifique. Hein.
C'était comment ?
Bah, c'était une petite chambre de bébé. Il y avait le lit, les nounours, la batte de baseball. Et des placards, c'était plein d'habits, beaucoup de jouets. C'était une chambre d'enfant.
Jolie, c'était bleu.
Oui, c'était bleu. Elle allait mettre des rideaux jaunes aussi. Avec le papier peint, tout allait. Hein. C'était elle qui avait fait tout à décor. Elle était fière.
C'était comment ?
C'était très, très coquet, j'aimais bien comme c'était dedans.
C'était quel style ?
Eh bien, déjà les rideaux, c'était des rideaux noirs. C'était du satin, ça faisait une doublure, mais ça faisait un style. C'était table en verre, tout du meuble noir. C'était moderne, un style assez cool. Petite télé, c'était bien, c'était... Pour un couple, c'était suffisant et puis c'était bien aménagé. Enfin, je sais que je sais pas comment elle s'est débrouillée pour avoir tous ces meubles, parce que tout était neuf. Mais elle connaissait beaucoup de monde hein, à l'extérieur, hein. Sur Toulouse, tout ça. Elle connaissait beaucoup de monde, hein. Parce que moi, elle m'avait déjà demandé de téléphoner à des amis, enfin pour raconter les petits bobards, quoi, pour que certaines personnes s'inquiètent pour elle. Mais c'était pas ici, c'était souvent sur Toulouse, quand même. Et puis Paris.
Quel genre de coup de fil ?
Oui, du style « Allô, oui, je suis une amie de Cassandra », parce qu'elle faisait croire aussi qu'elle était hôtesse de l'air, à l'aéroport de Mulhouse. Et puis moi, je sais pas, ça arrive des fois de faire exprès, puis exprès pour se faire remarquer, pour qu'il y ait plus d'attention. Et puis moi, elle me disait de faire ça, et puis les gens s'inquiétaient, téléphonaient, puis elle décrochait « Oui, je suis rentrée, ça va mieux », des trucs comme ça.
Mais alors, qu'est-ce que vous racontiez, vous, qu'elle était hôtesse de l'air ?
Ben, elle me disait comme ça, tu dis que je suis hôtesse de l'air, et puis tu dis que j'ai eu un problème, que j'ai glissé les escaliers, que je me suis cassé une jambe, qu'on a été obligé de me rapatrier, et puis bon, ben, des fois, moi, je le faisais. Enfin, si c'était pour lui rendre service.
Et c'était un homme, toujours,
c'était
au bout ?
Des hommes, oui, c'était des hommes.
Est-ce que vous avez été séduite par elle ? Est-ce qu'il y a eu... un genre de sentiment un peu ambigu avec elle ?
Ben, à la force, oui. À la force, oui, parce que quand même... elle était aussi indécise des fois. Hein. Je ne savais pas trop ce qu'elle voulait, mais... Oui, après, j'ai commencé à m'attacher. Hein. Enfin, je ne veux pas m'offrir des fleurs, mais elle m'aimait bien. Tout de suite, elle m'a tout de suite pris. Et moi, hein, c'était... Je suis avec mes autres copines, ce n'était pas pareil. D'abord, je vois, il n'y a qu'à moi qu'elle écrit. Sur les deux autres personnes, sur les trois, il n'y a qu'à moi.
Vous étiez séduite par elle ?
Oui, oui. Puis, bon, ben moi, elle me disait tout le temps comme ça. Oui, si un jour Christian part, tu viens vivre avec moi. Qu'elle me disait. Et puis, elle me complimentait tout le temps sur mes cheveux ou des trucs comme ça. Ben ça, c'est la première hein, de lettres. Celle-ci, elle me l'a écrit le 14 juin 93. Alors, Yacina et Pauline, c'est moi, Cassandra, j'ai été surprise de vos lettres. Elles m'ont été données le lundi 12 juillet. Je ne sais pas quoi vous dire, à part que je suis désolée de vous avoir pas mis au courant de ma situation. Excusez-moi. Pouvez-vous me dire aussi ce qui a été dit sur moi et ont-ils donné mon nom ? Sinon, pour moi, la prison est très dure. J'ai souvent envie de craquer et j'ai envie d'en finir avec ma vie. Quand j'ai lu vos lettres, j'en ai pleuré car j'étais surprise. Je ne me doutais pas que vous resteriez amis avec moi, car on peut dire que tout le monde m'a laissé tomber. Et vous, vous êtes quoi ? Et vous êtes vraiment de vrais amis. Vous me manquez et j'espère que vous êtes vraiment sincères quand vous me dites pour que pour vous, je resterai toujours votre Cassandra. Et je ne suis pas encore combien de temps je serai là. Mais je vous mettrai au courant. J'ai fait tout ça pour Christian, car j'avais peur de le perdre. Car je l'aimais et au fond de moi, je l'aime encore. Comme on dit, les hommes ne valent pas la peine qu'on se mette en quatre pour eux. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que je n'étais pas une femme et que j'attendais pas d'enfant? Dites-le-moi franchement. Je vous aime beaucoup. Que faites-vous? Est-ce que vous sortez en boîte? Est-ce qu'on parle encore de tout ça à Luxeuil? Je vous laisse, à très bientôt. Cassandra. Voilà.
En fait, elle a fait ça pour lui?
Pour lui, bah oui, elle le dit. Hein. Il y avait quelqu'un qui pouvait savoir pourquoi elle avait fait ça. Hein. C'était pour lui, apparemment. Hein. Pour le garder, pour lui montrer qu'elle l'aimait, qu'elle voulait avoir un enfant avec. Et puis la seule solution pour elle, pour le garder, c'était d'enlever un bébé, étant donné que c'était un homme qu'elle ne pouvait pas en avoir. Avec ça, hein.
Comédienne du quotidien, enchanteresse ambiguë, séductrice imprévue, un peu de tendresse, hors la loi, chez les séparés dans les grands ensembles. Aussi sincèrement que chez les arrogants, un rayon de soleil trouble dans le petit train-train, le feuilleton sort de l'écran et se répand sur le canapé à crédit.
Et là, c'est peut-être un hasard, on se trouve dans ton salon chez tes parents, et juste derrière le canapé, là, sur le mur, il y a un poster avec un monsieur, un jeune homme, très musclé, très beau,
ouais,
qui tient dans ses bras, il est nu, enfin, il est torse nu au moins, et il tient dans ses bras un bébé qui a à peine...
3 mois, 4 mois.
Qu'est-ce que ça fait là, ça?
Ah non, ce poster, moi, j'ai trouvé très beau, d'abord, parce que j'adore ce style d'image, en plus. Alors, ouais, j'ai craqué. J'ai voulu le mettre là, pourquoi? Parce que... Je sais pas, je le trouve très beau. Enfin, le poster, hein. Puis même l'image de l'homme avec un bébé, c'est trop, quoi. Ça, c'est...
Qu'est-ce qu'il y a d'émouvant là-dedans?
C'est une image paternelle, c'est... L'homme qui tient son bébé... Enfin, son enfant.
Tu trouves pas aujourd'hui, après que tout ça soit passé, que c'est un peu troublant de voir ce poster-là chez toi?
Ah oh, si, bah, quand on y réfléchit bien, ouais. Mais...
T'imagines ce jeune homme travesti en femme?
Ce jeune homme en femme? Oh non, je le vois pas en femme, moi. Peut-être que Cassandra, elle y a pensé, hein. Parce qu'elle l'aimait bien, hein, ce poster, hein, je vous assure, hein.
Qu'est-ce qu'elle disait face à ce poster?
Bah, qu'elle aimait bien le mec, elle. Sérieusement, hein, elle aimait bien. Hein. Le bébé, elle en parlait pas. C'est plutôt le bonhomme qu'elle regardait. Hein. Attention, hein, elle était tout partout, Cassandra. Hein. Oui, non, mais elle l'aimait bien, ce poster. C'est vrai, mais c'est vrai, il est beau.
Ouais, bah ça a mal fini, hein. T'as très très mal fini. À 13h30, le bébé est né. À 17h, Cassandra était à la maternité. À 18h, elle est arrivée à l'immeuble avec le bébé dans les bras, champagne. Et puis, ouais, le soir même, la tour était encerclée. Gendarmerie.
Il y avait une 309 crème. Et puis bon, ben, les gens, comme ils sont curieux, tout le monde était en bas, tout le monde avait vu que... Enfin, c'était les gamins, le plus qu'avaient vu. Hein. Puis moi, je me penche par la fenêtre, puis j'avais vu. Enfin, les policiers de la voiture. Puis ma mère est descendue, comme ça, par curiosité. Hein. Et puis, ben, c'était là qu'elle avait vu Cassandra avec les menottes dans la voiture. Elle baissait la tête, elle avait honte. Elle était gênée, hein, parce que comme elle connaissait bien ma mère, elle était gênée. Puis donc, ma mère a demandé à un policier ce qui s'était passé, tout ça. Puis il lui a dit comme ça, bah, vous verrez tout ça demain dans les journaux. Vous saurez tout ça demain dans les journaux. C'est en première page.
C'est exactement ce que je vous ai dit l'autre jour quand vous m'avez interrogée. Et j'ai des preuves de ce que j'avance, si vous voulez vérifier.
Ah non, personne ne vous accuse de quoi que ce soit, madame Hollis.
De toute évidence, vous vérifiez mon alibi.
Non, ça a déjà été fait.
Je ne vois pas pourquoi vous êtes si déterminée à avancer d'autres théories.
Elle s'appelle Gladys, elle a 3 mois et demi. Elle est super belle. Un Yorkshire. Oui.
Vous la peignez
ou... Oui. Ben, pour l'instant, je ne la baigne pas parce que comme elle a fait une bronchite pulmonaire, alors je ne la baigne pas pour l'instant. Mais je la nettoie quand même avec un gant de toilette. J'y fais ses yeux. Je la coiffe, je la démêle. Tout. Comme un bébé. C'est un bébé.
Il est fait de l'amour, vous regardez, vous?
Pas du tout, non. Je regarde Dynastie. Là, ma chérie, regarde. Gladys. Tiens. Oh, le bordel. Oh, il fait le bordel. Tiens. Gladys. C'est l'Albert, il fait le bordel. Tiens. Tiens, ma chérie. Allez, hop. Ou des fois, quand je passe comme tiens. Ça, elle le fait. Tiens. Viens voir, Gladys. Oui. Oui. Viens vite. Oh. Ouais. Tu dis rien, ma chérie. Allez, viens vite. Allez, viens, on s'en va. Viens. Viens, la maman. Viens vite. Viens vite. Oh, fais le bordel. Oh, qu'est-ce que c'est, celui-là? Il fait le bordel, celui-là. Oh là 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 là. Oh, alors, alors. Regarde ça. Oh, qui fait la bordel. Oh, 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 oh. Je sais pas si elle voudra. Oh, il fait le bordel, la petite. Oh, oh,
il fait le bordel. Tiens. Et pourtant, elle la boit, hein.
Regarde, moi, celui-là. Tu vois.
Moi, je dis qu'on n'a rien remarqué. Pour nous, c'est une femme. Hein? Ça a toujours été une femme. Très sympa avec nous. Bonne copine. On s'amusait bien avec. Enfin, s'amuser. Je veux dire, on passait des disques, on... Elle nous passait des cassettes, tout.
Quel genre
elle
de disque?
Elle dansait encore bien, ben, du disco.
Ouais.
Ouais. Ben, ma foi, on a même dansé, tout. On ah oui, s'amusait bien avec elle, tout.
Toutes les deux, toutes les trois.
Ben, même ah, plusieurs. Même mon fils, tout ça, avec des copains, tout. Des copains à mon fils. Ben, personne n'a rien remarqué, hein. Et moi, j'ai eu du mal même de croire que c'est vraiment... que c'est un homme, parce que même maintenant, encore à maintenant, je ne peux pas me dire... je ne peux pas m'en remettre que c'est un homme, hein.
Alors, racontez-moi ces hein. soirées, alors c'était vraiment sympa?
Ah oui, c'était très bien. Et elle dansait très bien. Super, mieux que nous.
Et alors là, je vois que vous avez presque une discothèque à la maison, avec une ben, table de mixage, presque, avec presque, deux platines oui. Pour faire des mixages, des cassettes. Vous avez plein de matériel,
ah, oui.
des disques partout?
Partout.
Ça, vous êtes
nouveauté
passionné?
Nouveauté et tout, nouveauté.
Et on peut écouter un disque que vous écoutiez avec elle?
Oui, c'était quoi comme cassette?
Vas-y, voir.
Bon. On va danser alors.
On met tous les boutons en marche.
Il faut que je le donne à réparer aussi parce qu'il est... Ça vous va comme ça? Ça vous va comme ça?
Et alors vous avez les boules pour au plafond, les boules qui font
oui,
des...
Oui, tout, ça s'allume ma foi. Il y a pour les slow, il y a un peu tout, les jeux de lumière.
On peut allumer aussi la lumière. Le stromboscope.
Vous voulez tout?
Ah ouais, la totale.
Alors, pour faire les slow là-haut, boule qui tourne, jeu de lumière qui... Vous avez là aussi. Vous voyez? Vous le voyez comme moi?
Ah, il y a beaucoup
tout.
De matériel.
Il y a beaucoup
alors.
De matériel.
C'est impressionnant.
Hein? C'est bien.
Et alors, elle descendait chez vous aussi pour
oui.
faire la fête?
Ah oui, elle descendait. Elle descendait chez moi, puis on allait chez elle aussi, parce qu'elle avait des cassettes qu'on y a fait aussi et tout. Elle est passée, on dansait sur sa terrasse, parce qu'elle a une terrasse, hein, que nous, on a rien, on n'a pas de terrasse. Hein.
Et alors, c'était vraiment la grande fête, vous dansiez
ah, oui.
comme des fous. Hein.
Voilà, c'est vrai. Ça y est, on éteint tout, on peut. Vous voyez comme moi. Hein. Elle aimait beaucoup cette musique-là. Elle dansait très, très bien sur cet air de musique.
Venez vite, c'est commencé.
C'est commencé?
Oui.
Là, la jeune fille là, qu'elle est au milieu que vous voyez, elle s'est mariée avec un jeune homme qui a hérité d'une grosse fortune de son père. Mais elle ne le sait pas. Alors la maman du jeune, elle voudrait lui faire signer un papier que si elle vient à divorcer, qu'elle n'acceptera pas de prendre la moitié de la fortune. Et l'autre jeune femme blonde... Et le jeune homme, là, c'est des amis qui l'ont hébergée parce qu'elle a eu, avant d'être mariée, elle a eu bien des problèmes. Voilà. Puis la belle dame blonde, là, c'est encore un autre couple. Alors, elle se prénomme Nikki. Elle est divorcée avec son mari. Elle a deux enfants. Le mari dit qu'il s'est remarié, c'est pas valable, parce qu'il n'y a pas 6 mois qu'ils sont divorcés. Alors, elle va pour se divertir un peu, pour se sortir de sa maison. Elle va dans un genre de discothèque, si vous aimez mieux. Hein? Mais sans arrière-pensée, c'est pas pour chercher fortune. Puis elle va avec une amie qui est veuve aussi. Et son mari l'a appris incidemment et... il est allé les guetter dans cette... où, naturellement, étant deux belles dames, elles avaient tout autour d'elles des messieurs qui leur faisaient la cour.
Je crois que Victor mérite un peu mieux que cette Léana.
Ce qu'il lui faut, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il lui faut, c'est vous.
Eh bien, mais cela ne fait pas partie de mon plan. Seulement, voyez-vous, je ne supporte pas de le voir gâcher sa vie comme ça. Il faut que je m'occupe de son bonheur malgré lui.
Je ne vous avais encore jamais vu aussi sûr de vous. Vous avez un atout dans votre manche, n'est-ce pas?
On ne vous a jamais dit que vous êtes trop curieux.
Si, de nombreuses fois, mais ça n'a rien changé. Je préfère dire que je suis de naturel inquisiteur. Mmh. Alors, dites-moi, quand avez-vous l'intention de lancer votre attaque?
Et tout de suite.
C'est la vie, c'est réel à ce moment-là. Bon, ben en ce moment, c'est Cassandra. Puisque c'est Cassandra. Cassandra, je ne sais plus. Attendez, qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Elle est quoi? Architecte décoratrice. Alors, c'est son rôle d'aller chez les gens pour faire, vous savez, les appartements, ceci, cela. Voilà. Mais là, elle n'était pas architecte décorateur. Là, c'était rien du tout. Il ne travaillait pas ni l'un ni l'autre.
Et quelle est la relation entre le feuilleton, ce que vous savez du feuilleton, et ce que vous savez d'elle dans la tour?
Ben, je pense qu'elle avait copié. Peut-être a-t-elle vu le feuilleton. Je pense qu'elle avait copié parce qu'elle elle se coiffait comme Cassandra. Elle était blonde comme elle parce que normalement, il était brun. On voyait des fois sa racine de cheveux. Quand elle n'avait pas fait sa coiffure comme il faut. Alors je présume qu'elle avait peut-être copié là-dessus cette histoire-là.
Et dans l'histoire de...
Et dans l'histoire de Cassandra, la télévision, son mari est impuissant. Alors elle aurait voulu que son amant lui fasse un enfant. C'est pareil. Elle voulait un enfant aussi. Mais là, c'est une femme, alors ce n'est pas la même chose quand même que là.
Mais c'est elle qui voulait un enfant.
Oui.
Dans le feuilleton.
Oui, dans le feuilleton.
Et son mari?
Ben son mari, il ne pouvait pas... Alors, ça, c'est assez difficile. Hein. Puis son mari, ne pouvant pas avoir d'enfant, ne voulait pas, par exemple, passer par toutes ces choses qu'ils font, là, vous savez, ces machins artificiels. Et tout, son mari ne voulait pas ça. Et puis elle non plus. Alors elle aurait voulu un enfant de son amant. Et son amant a dit que ça donnait beaucoup à réfléchir, parce que s'il lui faisait un enfant, lui, puis que c'est elle qui l'élève avec son mari, que lui, ses instincts paternels, il serait obligé d'aller voir cet enfant. Et c'est vrai, ça. Bon, vous pouvez pas avoir d'enfant, vous dire vous pouvez pas avoir d'enfant, mais il faut pas l'envoler, hein, parce que c'est terrible, ça. Mais enfin, d'après Léon X, soit disant que les parents auraient retiré leur plainte. Hein. Mmh. Alors, c'est des gens encore bien... Il faut dire qu'elle lui a pas fait de misère, rien. Hein. Elle avait volé l'enfant parce qu'elle voulait un enfant. C'est un gars qui avait quand même quelque chose... Il avait du féministe en lui. Parce que disons qu'il avait un appartement qui était bien tenu. Et aux fenêtres, il avait bien arrangé de très jolis rideaux. Que bien des jeunes femmes dans la tour qui font bien les pimprenelles, qu'elles n'ont pas de rideaux. Et puis elle tricotait. Bon, c'est féministe, ça, quand même, tricoter. J'ai l'impression que c'est Cassandra qui a tué son mari, parce que hier on la voyait qu'elle a acheté des belles toilettes rouges. Il n'y a pas longtemps que son mari est tué, elle a acheté une belle toilette rouge, une belle bleue, des chaussures pareilles, enfin tout. Puis elle téléphone toujours à quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, on ne voit pas la personne à qui elle téléphone, mais c'est quelqu'un qui lui dit oui, qu'elle est prête à aller ici, aller là. Alors,
salut Léana, c'est Niki.
Ah voilà.
Pourtant je ne suis pas partie longtemps.
Eh bien, le temps, mon chéri, tu ne l'as pas rien. Je veux dire, il y a certaines personnes qui peuvent partir des années sans qu'on s'ennuie d'elles, et il y en a d'autres, comme toi, qui transforment chaque minute en heure pour celle qui attend. Je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je te connais. Je n'aurais jamais imaginé que je rencontrerais un homme comme toi un jour. Tu ne vas pas repartir au travail, dis-moi.
Voilà, Cassandra. Cassandra, c'était un numéro de Là-bas, si j'y suis, du 7 octobre 1993, que nous avons retrouvé dans le grenier de Là-bas, si j'y suis. C'était un reportage de Christophe Gallo, réalisé à l'époque par Christian Rose. C'était il y a 17 ans. Et Cassandra doit être quelque part, si jamais vous la le connaissez, si jamais il ou elle s'est reconnu, ben évidemment, vous manifestez au répondeur de Là-bas, si j'y suis, par exemple 01 56 40 37 37 ou sur le mail de Là-bas, si j'y suis, daniel.mermet@radiofrance.com. Merci à tous. Toutes les informations sont sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter, comme beaucoup d'autres, sur là-bas.org. Là-bas.org. La technique aujourd'hui, Jean-Noël Vélan et Guillaume Roux. C'est Coyen Guyenne et Raphaël Mouterde qui ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Céline Rouzet. Attends vos messages sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis. Je le rappelle, 01 56 40 37 37.
Ceci est un message de Bleu Ciel d'EDF.
Fais pas chaud, hein?
Non, fais pas chaud.
T'as bien fermé la porte?
Oui.
T'es sûr?
Ah oui, je te dis.
Et les fenêtres? T'as vérifié les fenêtres?
Aussi.
T'as baissé le chauffage alors?
Ah non, j'ai rien fait.
Mais alors pourquoi il fait pas chaud?
Bah parce qu'il fait froid.
Et si vous faisiez appel à Bleu Ciel d'EDF pour bénéficier de conseils pour vos projets de travaux d'isolation et de chauffage et être mis en relation avec des professionnels qualifiés? Contactez votre conseiller EDF Bleu Ciel au 3929, près d'un appel local depuis un poste fixe, ou rendez-vous sur edf.fr. EDF, changez l'énergie ensemble. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Bonne fin de semaine à tous, on se retrouve lundi à 15h pour Là-bas, si j'y suis. Les infos, Angélique Boin, salut.
Va-t-on vers la fin de la semaine de 4 jours dans les écoles primaires? Dans la circulaire de préparation de la rentrée 2010, publiée hier au Journal officiel, le ministère de l'Éducation encourage en tout cas l'organisation des semaines en 9 demi-journées, en incluant donc le mercredi matin. Le texte précise que ce système doit avoir rencontré l'adhésion des conseils d'école qui réunissent directeurs, maires de la commune, enseignants et représentants des parents. Après la suppression de l'école le samedi matin en 2008, 95% des établissements avait opté pour la semaine de 4 jours, mais cette organisation est critiquée par les chronobiologistes, la FCPE, Fédération des parents d'élèves, ou encore l'Académie de médecine, car elle ne respecte pas les rythmes biologiques des enfants. À 2 jours du deuxième tour des régionales, le Premier ministre François Fillon continue de mouiller sa chemise. Il était aujourd'hui en Corse, l'une des régions détenues par la droite et qui pourrait basculer à gauche. Lors d'un meeting, il a une nouvelle fois fustigé l'alliance des 4 listes de gauche, une alliance qui n'est pas crédible, a-t-il dit, entre des hommes et des femmes qui se sont toujours opposés. Après le volte-face du Pentagone, EADS va analyser les nouvelles conditions de l'appel d'offres concernant les avions ravitailleurs de l'armée américaine. Nous ne ferons d'offres que si nos chances de l'emporter sont équitables, indique le groupe européen dans un communiqué. Elle a gagné une bataille, mais pas la guerre. Christine Pujol, la présidente contestée de l'UMI, principale organisation patronale de l'hôtellerie-restauration, ne sera pas expulsée de son bureau dans lequel elle campe depuis 9 jours. Décision prise par le tribunal de Paris. Son avocat annonce qu'elle va tout de même rentrer chez elle ce week-end, qu'elle reviendra lundi pour poursuivre son travail. Un mandataire judiciaire a par ailleurs été nommé dans cette affaire pour convoquer une nouvelle assemblée générale et permettre d'élire en toute transparence un nouveau président. Premier grand test pour la cohésion de la zone euro, la crise grecque sème la zizanie en Europe. L'hypothèse d'un recours au FMI gagne du terrain en cette fin de semaine. C'est l'option retenue finalement par l'Allemagne. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, estime que cela n'aurait rien d'humiliant. Il juge en revanche absurde l'idée émise hier par les Allemands d'exclure un membre de la zone euro. La France dit toujours travailler en priorité sur une solution européenne, tout en n'excluant pas une simple assistance technique de la part du FMI. Au lendemain de la mort du supporter du PSG, le député maire de Boulogne propose une mesure radicale pour lutter contre la violence dans le football. Pierre-Christophe Baguet propose de consigner au commissariat tous les interdits de stade, et cela tout le temps des matchs. Actuellement, ils doivent juste venir y pointer. À noter que les 4 hommes placés en garde à vue dans cette affaire mercredi devraient être présentés à un juge cet après-midi en vue de leur éventuelle mise en examen. C'est du jamais vu. Lyon et Bordeaux s'affronteront donc lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Tel en a décidé le tirage au sort. Une affiche inédite, mais qui garantit à la France une place en demi-finale.
Dimanche sur France Inter, soirée spéciale élection régionale, deuxième tour. En partenariat avec TNS Sofres Logica, France 2 et Le Monde.
Dès 19h30, retrouvez Hélène Jouan et ses invités pour les premières estimations.
Puis tout au long de la soirée, découvrez en temps réel les résultats dans les différentes régions, ainsi que les analyses du service politique de la rédaction.
Et lundi, à partir de 6h30, au lendemain du scrutin, matinale spéciale de Nicolas Demorand sur l'impact de ces élections régionales, avec reportages, éditorialistes et invités.
Édition spéciale, élection régionale 2010.
Dimanche à partir de 19h30
et lundi à partir de 6h30. France Inter.
La différence.
16h04 sur Inter. Restez avec nous. On retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. On sait qu'Igor Stravinsky, le fameux compositeur, on a fait un film récemment sur lui d'ailleurs, était assez critique, ce personnage qui n'était pas d'une tendresse absolue. Mais un jour, un de ses élèves lui a demandé pourquoi il gardait un exemplaire très fatigué de la grosse partition d'orchestre de la Belle au bois dormant de Tchaïkovski dans sa bibliothèque, et Stravinsky a dit « parce que toute l'orchestration est là ». Ouais, c'est beau quand un maître reconnaît qu'il a lui-même eu des maîtres avant lui. Et bien cette Belle au bois dormant qui a été accueillie fraîchement à l'époque, faut dire que c'est très long pour un ballet quand même, 2h15, 2h30. Alors le tsar est un peu fatigué, le public aussi, mais maintenant c'est un succès absolument inoubliable, indéfectible, ça n'arrête jamais. Et Tchaïkovski avait 48 ans quand il a reçu une lettre du directeur des théâtres impériaux pour lui commander un nouveau ballet à partir de La Belle au bois dormant de Perrault. Il s'est exécuté avec joie, et puis ça a été d'autant plus agréable qu'il y avait un fameux chorégraphe, Marius Petipa. Mais comme c'est la 10e journée du sommeil aujourd'hui. Est-ce que vous dormez bien? Je ne sais pas. Enfin bon, j'espère en tout cas. Je vous propose le final du premier acte de La Belle au bois dormant. À la fin, il y a un diminuendo. Ça disparaît. Ne vous endormez pas. petite harpe dans le lointain. Ah oui, ça peut pousser à l'assoupissement, même cette conclusion en atterrissage. Finale du premier acte de La Belle au bois dormant de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Et nous avons entendu le BBC Symphony Orchestra dirigé par Gennady Rojdestvensky. Aujourd'hui, c'est la Saint-Joseph. On va entendre, bien sûr, un peu de ce Joseph que j'adore, moi, Joseph Haydn.